Chers frères et sœurs, nous sommes, avec les lectures de ce jour, au cœur du message chrétien, qui est le message de l'amour, vous l'avez entendu, qui résonne à de si nombreuses reprises, que ce soit dans la deuxième lecture ou dans l'Évangile. Mais vous savez tout aussi bien que moi que l'amour, c'est une auberge espagnole. C'est-à-dire qu'on y trouve ce qu'on y apporte. Et que chacun met derrière ce mot exactement ce qu'il y entend et ce qui correspond à sa sensibilité, à sa subjectivité, à son expérience. Et on le sait, c'est le mot le plus piégé qui puisse être. D'abord, si on veut parler en philosophe, pardonnez-moi, on dira que l'amour, c'est une praxis et non pas un logos. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pratique et non pas un concept. Si ça reste un concept, on est complètement à côté de la plaque. Pardon pour l'expression. Et c'est une parole même, on a l'impression que plus elle est prononcée, moins elle est comprise, moins elle est vécue. Alors, la difficulté de ce jour, de ces lectures, de ce dimanche, c'est comment à nouveau avoir accès à cette immense réalité de l'amour sans que les mots, finalement, ne fassent écran. Alors les mots d'abord, peut-être, il faut commencer par là, puisque la parole de Dieu nous est donnée en ce jour. Il nous est dit, d'abord, Dieu nous a aimés le premier, ce n'est pas nous qui avons aimé. C'est une première des choses, c'est-à-dire que l'amour a sa source en haut, en Dieu, et ça c'est énorme. C'est pas nous qui le fabriquons. Deuxième point que saint Jean va mettre en lumière, il va voir cette géniale trouvaille. Dieu est amour. Dieu s'identifie à l'amour. Tout son être s'épuise dans cet amour, si l'on peut dire. Et comme le disait frère Roger, Dieu ne peut donner que son amour. Et puis, comment s'est manifesté cet amour? Dieu a donné son Fils unique. C'est lui qui nous a aimés, il a envoyé son Fils en sacrifice pour le pardon des péchés. Voilà les quelques ingrédients. Mais soyons réalistes, tout ce que je viens de vous dire, ce sont des beaux discours. Ça sert absolument à rien. Si ça, ça reste dans les livres, si ça reste même sur nos lèvres, c'est comme vouloir goûter la beauté d'un poème de Victor Hugo avec un message en morse. Bip, 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 bip. Il n'y a plus beaucoup de charme. Et ben voilà, si l'amour reste dans les mots, ça sera du Victor Hugo avec du morse. Alors que faut-il? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu pour que ces paroles nous rejoignent? Eh bien, elles doivent s'incarner. Elles doivent s'incarner d'abord dans le Christ, bien sûr. Mais soyons réalistes là aussi. Qui d'entre nous a rencontré le Christ du temps de sa vie terrestre? Personne. Alors, il faut que nous prolongions cette incarnation. Vraiment. Inutile de dire avec nos lèvres, avec notre bouche, Dieu est amour, si nous ne le disons pas avec toute notre personne, notre chair, dirait la Bible, c'est-à-dire le don de tout nous-mêmes, nos gestes, nos regards, nos paroles aussi, et plus fondamentalement, cette disposition profonde du cœur. Nous avons à proclamer ces paroles, mais surtout à faire entendre qu'elles sont vraies par toute notre vie. Voyez, c'est comme ça que j'aimerais lire aujourd'hui ce commandement de l'amour mutuel qui nous est donné. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas une espèce de love and peace. Et si on doit s'aimer, c'est pas parce que ça sera plus agréable, ça sera pas un énième commandement du développement personnel. Non, cet amour mutuel, il est révélation, pas l'unique, elle ne l'épuise pas bien évidemment, mais il est révélation de l'amour de Dieu. Voilà, c'est vertical d'abord ce commandement de l'amour mutuel. Nul ne saura que l'amour est vrai si nous ne nous aimons pas les uns les autres, quand bien même on aurait lu l'évangile, la théologie, on ne saurait pas qui est Dieu si on n'a pas fait la rencontre de quelqu'un qui aime vraiment, malgré tous ses défauts et tous ses péchés. Pour faire comprendre ceci, permettez-moi de prendre l'expérience inverse. Celui qui n'a jamais rencontré l'amour de Dieu, incarné par les hommes, par l'amour mutuel, qu'advient-il de lui ? Souvenez-vous de l'histoire de Nicky Cruz, portée à l'écran à plusieurs reprises il y a encore quelques années. Dans les années 60, ce jeune d'origine portoricaine arrive à New York. Mais qui était-il ? Eh bien, c'était le fils d'une sorcière, le fils d'un père sataniste. Et sa mère, non seulement ne lui disait pas son affection, mais régulièrement, elle lui disait « Nick, je ne t'aime pas ». Et son père l'enfermait avec les oiseaux dans la cage de la volière pour s'amuser. Voilà cet enfant, cet adolescent, qui arrive dans cet état-là à New York. Il devient rapidement chef d'un gang, les momos, et puis ce sont les batailles, les couteaux, les meurtres. Or, un jour, un pasteur en Pennsylvanie a sous les yeux un article du Life qui fait état d'un procès de certains assassins de ces gangs qui ont mis à mort et tabassé un jeune handicapé et qui sont sur le box du juge. La photo est là, ou plutôt le dessin. Et le pasteur regarde tous ces jeunes, ce sont des adolescents qui ont entre 15 et 18 ans. Alors il est bouleversé, il dit « je veux aller là, à New York ». Il quitte la Pennsylvanie, il va voir les gendarmes, il dit « je veux aller ici ». On lui dit « vous êtes complètement fou, c'est la guerre perpétuelle ». Je serai accompagné par Dieu, c'est sa seule réplique. Et voilà que ce pasteur Wilkerson va rencontrer ces jeunes et l'un d'entre eux qui se trouve être Nick, sevré de tout amour. Et il lui dit « Nick, Jésus t'aime ». Nick est incapable d'entendre cette parole. C'est une farce de plus pour lui. Elle est radicalement incompréhensible. Il m'était impossible d'aimer quiconque avant de me sentir moi-même en sécurité, incapable de comprendre le langage de l'amour. Alors il jette le pasteur, allez au diable. Mais peu à peu, Nick va expérimenter cet amour, mais un amour qui n'est pas n'importe lequel. Et ça, c'est très important. Le pasteur n'a pas obéi à une espèce d'élan affectif qui se serait épuisé là, ou pour avoir des bons sentiments et se sentir en paix avec sa conscience. Qu'est-ce que nous dit Jésus ? Quelle est la première caractéristique de l'amour ? Il nous dit « L'amour, c'est accomplir les commandements. Comme moi-même, j'ai accompli le commandement du Père. » Que c'est libérant ! L'amour, comme je disais, c'est une espèce de centrale à produire de la subjectivité. L'amour, je le ramène à moi. Et de quoi nous délivrent les commandements ? Eh bien, justement, de cette subjectivité débordante. Alors, ce que nous dit Jésus, ça nous libère parce qu'on est délivré de cette illusion. C'est si important aujourd'hui de ne pas en rester à nos sentiments, à notre petit moi qui veut se sentir bien. Ça, c'est la première expérimentation. Et du coup, Nick va comprendre que derrière la parole que dit le pasteur, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que lui qui vient d'ailleurs, qui vient d'un commandement. Et qui n'est pas là pour essayer d'assouvir justement son désir de bons sentiments et de faire le bien à bas prix. Ça, c'est capital. Et puis, un autre aspect que va expérimenter ce jeune, c'est que cet amour, finalement, doit mettre en jeu la propre vie de celui qui prétend le détenir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Cette phrase-là, elle doit être le fondement de notre charité. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce pasteur, il est capable de risquer sa vie, de se déposséder de sa vie pour faire comprendre à Nick qu'il est aimé. Lors d'une deuxième rencontre, même phrase, Nick, Jésus t'aime. Alors là, c'est le déchaînement de la violence. Le pasteur est insulté, moqué, souillé de crachats, mais son amour résiste. Il est même menacé de mort. Il dit tout simplement, avec cette sérénité, « Nick, tu peux me tuer, me couper en morceaux, mais tu n'empêcheras pas que chacun des morceaux continue à te dire que Dieu t'aime. » Il le dit avec cette sérénité qui est proche des désarmés, Nick. Dernière caractéristique, si on peut dire, eh bien, c'est que cet amour que nous évoque Jésus et que ce pasteur que j'évoque a essayé d'incarner aussi, c'est que c'est un amour plus fort que la mort. Lors d'une troisième rencontre, le pasteur, encore pris à partie par les jeunes de cette bande, dira simplement cette parole « Dieu est amour et tu ne peux tuer l'amour ». Il est capital que quelqu'un qui ne connaît pas l'amour de Dieu puisse en faire ainsi l'expérience. Un amour qui soit le fondement de tout et dont on perçoive qu'il est éternel. Un amour dur comme le diamant, plus fort que la mort, qui dépasse la fragilité humaine. Si notre amour ne va pas jusque-là, c'est une contrefaçon. J'aimerais citer simplement un éducateur, Ross Campbell, qui évoque la crise de l'adolescence en évoquant cette crise sous ce visage du défi de l'amour inconditionnel. Il a eu affaire à pas mal d'adolescents, des jeunes parfois très pénibles, qui sans cesse testent. Ils vont tester leurs parents, leurs professeurs, leurs éducateurs. Que vont-ils tester ? Non pas la patience de leurs parents ou leurs éducateurs. Ils vont tester la structure du monde. Est-ce que derrière tout, c'est l'amour ? Est-ce que derrière tout, c'est un amour illimité ? Ou est-ce que mon comportement exécrable va venir à bout de cet amour ? C'est une vraie question. Et si l'on tient, si l'on résiste, eh bien à ce moment-là, la structure du monde est comprise comme portée par l'amour, qu'il y a Dieu par derrière, Dieu qui est amour. Alors oui, je peux construire ma vie. Alors je peux avancer. Alors je trouve une certaine paix, je resterai avec mes défauts. Mais agir dans ce monde aura un sens. Voilà. Voilà l'essentiel de cet amour. Alors qu'est-ce qui se passe ? Jésus nous le dit, notre amour porte du fruit. Les cœurs sont touchés. Nick va finir par se convertir. Il va parler à des millions de personnes, témoigner de cet amour de Dieu qui l'a transformé, qui l'a touché, qui l'a renouvelé, qui l'a arraché à l'enfer. Voilà en quoi nous aussi nous sommes appelés à porter du fruit. Bref, cet amour, c'est la clé de tout, la clé du monde, la clé des cœurs. Mais il faut le vivre, et c'est exigeant. Alors, demandons à la Vierge Marie de nous aider à être ce visage de Dieu, ce cœur de Dieu. De nous dépend aussi que le royaume s'étende.